sort de la projection du Dragon 5, et c'est formidable de vous voir si nombreux. Et donc je suis très heureuse d'accueillir Radu Judé. Exceptionnel, 40 films à son âge.
Et quels films ?
Mais avec des courts-métrages, je pense.
Des courts-métrages, des moyens-métrages, des longs-métrages, de la fiction, du documentaire, Un ours d'or. Eh bien, il fallait deux personnalités pour mener cette rencontre. Et je suis très heureuse d'accueillir le directeur du festival de Berlin, la Berlinale, qui a eu la belle idée d'inviter en compétition le nouveau film de Radu Judé, Carlo Chatrian. Et alors, un homme qui vous régale régulièrement, parce que je suis sûre que vous regardez beaucoup les films sur Arte, c'est Olivier Père, le directeur du cinéma sur Arte.
Carlo, avant d'inviter ce film à la Berlinale, tu avais aussi invité un film, au moins un, à Locarno. Pas oublié.
Oui, oui, c'est vrai. Vous savez que si je suis là, c'est parce qu'Olivier, à un certain moment, a eu une belle idée pour lui d'aller à Arte, belle aussi pour moi, parce que j'ai pu prendre sa place à Locarno. Et donc, entre autres, j'ai eu le plaisir d'avoir le film de Radu Judé, Scared Hearts, en français.
Cœur cicatrisé. On peut voir aussi à La Rochelle et qui est magnifique aussi.
Excusez-moi de vous interrompre, mais ça me rappelle quelque chose, que c'est tout le temps comme ça. Je me souviens qu'à un certain moment, j'avais beaucoup de problèmes financiers et j'étais proposé pour faire une réclame, une publicité comme réalisateur et je n'ai pas reçu le contrat, je n'étais pas élu pour le diriger, pour faire la mise en scène de cette... Et le réalisateur qui était décidé de le faire a été mort avant le tournage. Donc, ils m'ont invité moi-même de reprendre ça. Et j'étais dans le même temps un peu choqué parce que la seule façon que je pouvais faire cette pub, c'était... Et tout le temps, tout le monde de l'agence de pub était en noir. Il disait, pauvre mec.
Bon, on est déjà dans l'univers de Radu Judé avec cette anecdote.
Excusez-moi.
Et, alors,
mais non, mais c'est tout le temps comme ça, non? Si Eisenstein, Orson Welles faisaient des films, je n'étais pas ici. Maintenant.
Vous avez peut-être vu Bad Luck Banging or Loony Porn tout à l'heure. C'est le dernier film en date de Radu Judé. Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour parler de son cinéma, parce que c'est un film qui est à la fois un film récapitulatif et un film qui ouvre des perspectives nouvelles. Récapitulatif parce qu'on trouve quand même beaucoup de choses qui étaient déjà dans les films précédents et dans des films très, très différents les uns des autres. Il y a la partie au début du film, un peu documentaire, qui montre les rues de Bucarest et sans qu'il y ait de dialogue ou d'explication, on comprend avec la transformation du paysage urbain ce que la Roumanie est en train de devenir. Donc il y a à la fois un côté tranche de vie, un côté étude sociologique qui était déjà dans pas mal de films de Radu, notamment les premiers. Il y a la partie centrale qui est une sorte d'abécédaire qui est constituée majoritairement d'images d'archives. Et là, on pourra parler aussi de l'importance des archives, des images d'archives dans le travail de Radu, qui a fait aussi beaucoup de documentaires, et notamment des documentaires qui reposent beaucoup sur des archives qui permettent d'analyser, une sorte d'approche un peu analytique et critique de l'histoire de la Roumanie, de l'histoire du XXe siècle. Et puis, il y a cette dernière partie où là, on est dans la farce, la satire et quelque chose de très contemporain, très moderne qui parle vraiment du monde dans lequel on vit. Ce qui m'a permis de dire que chez Radu Judé, il y avait un travail de mémorialiste, d'essayer de comprendre le présent grâce au passé aussi, d'exploration du passé, mais il y avait quelque chose aussi qui était de l'ordre de la satire, de nos vanités contemporaines, et d'être un peu le mémorialiste du temps présent et de faire quelque chose qui est très difficile, qui est de nous confronter à des choses très déplaisantes et qui font notre vie, qui font le monde aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être ça, aussi en tout cas pour Adoujoud, le rôle d'un cinéaste, d'un artiste aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette dimension un peu récapitulative, en tout cas que le film réussit à associer des choses très, très différentes qui étaient déjà dans les films précédents?
Oui, absolument. Un peu, c'est vrai, un peu. Je dois dire quelque chose que si je peux parler en français, mais non, c'est vraiment, et ça, c'est pas de la propagande, c'est grâce à Arte et grâce au cinéma français. Parce que quand j'étais adolescent, après la Révolution en Roumanie, on a eu le chaîne Arte. Et j'aimais pas du tout apprendre français au lycée, j'étais au lycée, mais j'étais déjà cinéphile et intéressé vraiment par le cinéma, donc j'ai commencé à regarder les films sur Arte, c'était beaucoup, et avec des sous-titres, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Donc vous pouvez voir les résultats de la propagande française.
Est-ce que vous avez appris l'allemand aussi, mais, grâce à Arte?
Oui, exactement. Parce que vous nous avez raconté que vous avez aussi appris l'allemand grâce à la télé, à certaines télés.
C'était la même chaîne. Oui, c'était la mélange entre la télévision française et la télévision allemande. Mais je dois dire ça parce que je suis un peu aussi le produit de cinéma français. La nouvelle vague, pas seulement la nouvelle vague française, mais d'abord la nouvelle vague française. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit hommage en utilisant une chanson de Bobby Lapointe
sur le pianiste.
Oui, qui apparaît aussi dans le film de Truffaut. Oui. Et c'est cette tradition, je pense, de laquelle je me situe moi-même, parce que c'est dans la nouvelle vague, c'est ce désir, pas seulement des films sur la réalité ou sur les choses en face de la caméra, si je peux dire ça, mais c'est ce désir de mélanger documentaire et fiction, mélanger ce qu'aujourd'hui on nommait essayistique, les choses essayistiques. Donc, et tout ce mélange qui est une découverte que je l'ai fait quand j'étais jeune, mais ça prend tout le temps, un peu de temps, de trouver une voie dans ce truc-là. Donc, si le film est récapitulatif, c'est récapitulatif parce que il y avait déjà des bribes, des choses dans cette direction, et ici, sans être intéressé de le faire systématiquement, c'est devenu un peu comme ça. Oui, c'est vrai.
Mais le film se termine avec un genre que vous n'avez pas encore parcouru, donc les super-héros. Peut-être ça va être le prochain. Mais pour moi,
c'est ma calling card for Hollywood.
Peut-être.
La dernière scène, si.
Non, mais moi,
veut que je fais Avengers après ça.
Il faudrait. Mais moi, j'étais intéressé aussi par la progression, parce que c'est vrai que la partie au milieu coupe, et on va y revenir, mais ce n'est pas mélangé. C'est-à-dire qu'on démarre avec un film qui regarde le réel, bien sûr, le compose, mais qui regarde le réel, et on termine avec une autre film, ou une autre partie du film, où le réel n'existe plus. Donc, est-ce que cela était aussi le projet de ce film? Parce que la dernière partie, je pense que ça touche un ton qui est un peu nouveau aussi par rapport à ton travail.
Oui, mais je ne sais pas comment répondre, parce que j'ai cette idée qui, c'est peut-être un peu godardienne, que le cinéma est une façon de penser sur le monde, en façon d'étudier, en façon de, je ne sais pas, d'étudier la réalité, le monde. et en utilisant la caméra et le montage. Donc, je dois avouer que la partie forme, de construction du film, la partie formelle, c'est la façon dont le cinéma pense. Donc, on peut, je ne sais pas comment dire. Et c'est pour ça que cette projet n'avait pas vraiment un scénario d'abord. C'était des bribes, des choses, des notes, des parties d'un possible scénario. Et tout d'un coup, c'est organisé comme ça. Et oui, je ne sais pas si ça c'est un départ. Pour moi, je n'ai pas l'intention de faire des films avec des super-héros, des choses comme ça. Je ne suis pas capable quand même, parce que je ne crois pas en des choses comme ça. Je ne peux pas. Mais je dois avouer que la construction de ce film, c'était un peu une chose de me sentir un peu plus libre. Parce que, bon, libre, pas complètement, parce que c'est impossible d'être libre complètement, mais je dois dire que le cinéma professionnel, soi-disant professionnel, c'est tout le temps sur la pression qui des autres arts n'ont pas. Je connais et j'ai fait moi-même un peu de théâtre, et dans le théâtre, c'est plus libre, c'est beaucoup de la liberté formelle que dans le cinéma professionnel où on est sur la pression de producteurs, de financement, distributeurs, programmateurs de festivals qui parfois ont le désir dans certains types de films plus traditionnels, pour dire comme ça. C'est un peu, je sentis avec difficulté cet désir vrai d'ouvrir un peu la pratique cinématographique. Et j'ai réussi un peu à faire ça. C'est pour ça que je suis très, 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 très heureux de faire le film, même si peut-être il n'est pas bon ou peut être considéré bon ou mauvais. Ça, c'est une autre chose.
Mais c'est vrai qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, on est devant le film d'un homme libre, et ça je crois que c'est quelque chose à laquelle vous êtes très, très attaché, et qu'il y a effectivement la volonté de supprimer toutes les conventions, toutes les contraintes, et d'inventer des formes cinématographiques, une nouvelle écriture, y compris par rapport à des choses que vous aviez déjà expérimentées. Donc c'est vrai qu'on est rarement devant un tel film, et y compris dans le cinéma d'auteur contemporain, c'est un film qui invente beaucoup, qui prend des risques, qui est capable de mélanger l'intime et le politique, la sexualité et l'histoire, beaucoup de choses comme on a pu le constater, mais je trouve que c'est un film où vous réussissez un mélange d'intelligence, de discours, et aussi une forme de sauvagerie, enfin de liberté qui va jusqu'à la sauvagerie, l'agressivité, une forme de folie, de révolte qui était peut-être plus retenue dans les films précédents.
Peut-être, je ne suis pas capable de commenter. Je peux dire quelque chose, mais avec le risque de paraître un peu grandement, mais ce n'est pas le cas. C'est un article d'Olivier Assayas que j'aime beaucoup comme écrivain sur cinéma aussi. Et il a écrit sur le cinéma d'Andy Warhol. Warhol qui est bien sûr un très connu peintre. Et artiste, mais il n'est pas vraiment connu en tant que cinéaste, comme cinéaste. Mais je l'avais découvert dans les dernières deux années, et pas tous ses films, parce qu'il faisait beaucoup, beaucoup de films, et je le trouve très, très intéressant. Un film comme Vinyl, un film comme My Hustler, un film comme Beauty No. 2, je les considère vraiment des chefs d'œuvre et des films très, très, très radicaux et très intéressants. Et c'est vraiment dommage que les films de Warhol ne sont pas connus. Mais Assayas, ce qu'il disait là-bas, disait que si on regarde l'œuvre de Warhol, on voit comment il a réinventé le cinéma. Il a commencé avec des films noir et blanc et muets, après avec des films noir et blanc et avec du son, après avec des documentaires, des fictions, après de la couleur, et comme ça. En quelques années, il a réinventé à sa manière l'évolution. Il a refait l'évolution du cinéma. Bon, je ne crois pas que j'ai fait ça, mais j'ai dans mes petits changements, dans les films que j'ai réussi à faire, c'est un peu ça, parce que j'ai commencé avec des films plutôt traditionnels et réalistes, et après j'ai découvert la possibilité de faire des films sur l'histoire, après j'ai découvert la possibilité d'utiliser des archives ou des autres matériaux dans les films, donc, et comme ça, je ne sais pas si c'est une évolution au niveau de la qualité. Peut-être pas, peut-être non, je ne sais pas. Mais c'est intéressant que ce désir d'ouvrir un peu le cinéma, et le cinéma a cette qualité extraordinaire de s'ouvrir sur des formes, comme la littérature d'abord. Dans la littérature, ce n'est pas anormal si quelqu'un comme John Dos Passos utilisait des news, de newspapers, de journaux dans la littérature. Mais dans le cinéma, et particulièrement dans mon pays, ça n'existe pas une tradition comme ça. Donc, c'est pour ça que tout ce que j'ai fait, c'est un peu...
Là, on arrive presque à un film cubiste, un film de collage.
Oui, pourquoi pas.
Parce que déjà, le scénario n'était pas un scénario traditionnel. C'était effectivement une sorte de collage de matériaux très, très différents qui allaient de la citation à la description, au sitcom, populaire.
C'est vrai, et je pense parfois un peu, je ne sais pas pourquoi, peut-être un historien de la culture romain pouvait offrir une explication, mais c'était une grande tradition avant-gardiste en Roumanie. Parmi les Roumains, mais en plus, et spécialement parmi les Juifs roumains des années 20 et des années 30. Donc Tristan Tzara est né en Roumanie, Isidore Issou est né en Roumanie, beaucoup des autres gens qui ont influencé, des gens qui... Comme Brauner, Victor Brauner, le peintre, était né en Roumanie, etc., etc. Donc c'était une grande effervescence dans les années 20, dans les années 30. Le film Cœur cicatrisé que j'ai fait, c'est aussi un écrivain d'avant-garde, Max Blecher. Donc c'était une grande effervescence dans l'avant-garde roumain qui a été coupée. D'abord par les dictatures fascistes, Antonessian qui a exterminé et a fait les gens, les juifs de parti de la Roumanie. Ils ont tous été en Suisse ou en France, je ne sais pas. Et après par la dictature communiste. Mais on se trouve maintenant dans une situation où ce n'est pas une vraie connexion entre les avant-gardes roumaines dans la littérature, dans la peinture, etc., et le cinéma. Et j'ai commencé à essayer de trouver ça. Et je pense que vous avez raison quand vous parlez de cubisme ou de dadaïsme, parce que c'est un peu... c'est une influence parfois consciente, parfois inconsciente, qui vient de cette tradition, c'est vrai.
Et moi, je suis toujours fasciné parce que Radu, il ne peut pas s'empêcher de parler aussi de l'histoire, de son histoire, de l'histoire de son pays, non de son histoire. Et d'autre part, on dit que le cinéma est un art du présent. Et ce film peut être, je pense, une des raisons pour lesquelles il a frappé si fort, c'est aussi parce qu'il est vraiment au présent. Mais en même temps, il a des racines qui vont lointain. Donc ma question est très, très simple. Donc cette idée de Olivier, avant, a dit mémorialiste, cette idée de travailler avec le passé, de faire ressortir le passé, de le remettre sur la surface, c'est quelque chose qui fait partie d'un projet conscient d'où vient, de ton histoire, d'où vient.
Oui, c'est une question simple, mais la réponse, c'est le plus compliqué. Parce qu'il y a deux choses. L'une est la tradition du cinéma en Roumanie, et je reviens un peu plus tard à ça. Et l'autre, c'est le rapport avec l'histoire de notre pays, et spécialement de, je sais pas, ma génération. Parce que j'avais 12 ans à la Révolution de 89. Donc, et on a habité la dictature de Ceaușescu, c'était aussi une dictature très nationaliste. Il y a des gens qui nomment ça pas une dictature communiste, mais une dictature nationaliste, fasciste. Je peux comprendre, c'est assez vrai. Et on a été appris, et l'histoire, l'étude de l'histoire, d'une histoire fausse, effectivement, c'était un grand pouvoir de la propagande. C'était partout. Dans les films, dans les livres d'enfants, à l'école, à la télévision, à la radio, partout. Et ça a marché parce que j'ai grandi comme enfant et après jusqu'à adolescent avec cette idée qui vraiment marchait, qui disait, parce qu'on était dit tout le temps, les Roumains, l'histoire de Roumanie, c'est l'histoire des victimes. On était tout le temps les victimes des autres, l'Empire ottoman, je ne sais pas. Et on jamais, c'est un pays, une population, une histoire qui a été tout le temps les victimes et jamais n'a empilé, n'a fait de mauvais à des autres. Et ça, je dois dire que ça te donne un grand sentiment de bien et de relaxation. On te sent vraiment, je dis, mais moi, j'appartiens à une population qui n'a jamais. Et après, comme adolescent, j'ai découvert avec une erreur incroyable la réalité de l'Holocauste roumain, d'abord, qui est très, très complexe et beaucoup de la négation. J'avais des bagarres avec mes parents qui disaient, mais ça, c'est pas vrai, non, c'est impossible, non, les Roumains, non, jamais. Et après l'esclavage des Gitanes et après beaucoup des autres choses comme ça. Donc, j'ai commencé à m'enseigner, à lire et à étudier un peu, pas avec le désir de faire des films plus tard, parce que je ne savais pas ça, mais comme un jeune qui veut savoir exactement comment est l'histoire de la communauté d'où il vient. C'est une chose importante, parce que l'identité est construite avec l'histoire. Non, bon, ça, c'est la première chose. Mais après, parce que je disais d'abord que c'est une question qui est liée aussi au cinéma et à l'art en général. Les artistes, c'était comme ça. Et les cinéastes aussi. Bon, on peut dire, je peux parler seulement sur le cinéma. Dans la dictature, pour pouvoir faire des films, les cinéastes devaient faire des films qui respectaient la politique du parti, de présenter soit l'histoire nationale comme il faut, soit les réalités du pays en suivant les indications du parti, etc. Donc les cinéastes qui ne faisaient pas, il y avait des cinéastes qui faisaient des films comme ça, parfois pas vraiment mauvais, la plupart sont très mauvais, mais pas tous. Mais oui, parce que ça existe pas un Eisenstein roumain, quelqu'un qui a fait des films de propagande, mais aussi qui sont de cinéma extraordinaire. Mais les cinéastes qui essayaient de faire autre chose, j'ai eu un grand respect. L'âne, c'était... ici, il y a 10 ans ou plus, Lucian Pintili a été hommagé aussi, donc c'est pour moi un grand honneur et un peu, oui, je suis un peu impressionné d'être ici. Les autres, des gens comme Mircea Daneliuc, ils ne faisaient pas des films contre le régime, ça c'était impossible. C'était impossible de pouvoir faire ça ou de pouvoir imaginer ça. Mais il faisait parfois des films très simples, des films avec des gens normaux, des histoires de vie. S'il tournait sur la rue, ça a été déjà une question contre le régime. C'était un acte politique, effectivement. Mais après la Révolution, cette direction, comment je peux dire, cette incapacité, cette refus de parler, d'avoir une conscience politique dans le film, si je peux m'exprimer comme ça, a été devenu très important dans le cinéma roumain. Les cinémas roumains ne sont vraiment politiques. Ils ont soit métaphysique, soit philosophique, soit ludique, soit sur les réalités psychologiques, soit parfois des films sociaux, soit sur les réalités communistes, parce que les réalités communistes, c'était déjà accepté comme une acceptation tacite de parler de cette période, de la montrer, de faire. Non, le plus grand succès de film roumain, le film de Cristian Mungiu, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, est un film sur les dernières années de régime Ceaușescu. Mais c'est comme une mantra, c'est comme une interdiction de ne pas parler en cinéma ou de ne pas faire des films sur les autres réalités historiques ou sur des choses qu'on peut nommer politiques. Pourquoi ? Parce qu'il dit, et ça j'entends tout le temps, il y a des critiques ou même des collègues cinéastes qui disent qu'il n'est pas un artiste, parce qu'un artiste doit être général humain, métaphysique, je ne sais pas. Il est un propagandiste ou il est quelqu'un qui travaille sur l'histoire. Ça, ce n'est pas du cinéma, ça, ce n'est pas de l'art. Et j'entends ça tout le temps. Et si on regarde le nouveau cinéma roumain qui est composé des œuvres admirables et des réalisateurs extraordinaires, il jamais ne faisait un film sur la période fasciste de Roumanie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
C'est une constatation que je me suis faite aussi, et c'est ce qui vous différencie de Mungiu, Puiu, Porumbuiu, c'est qu'effectivement, ce qu'on a appelé cette nouvelle vague roumaine a vraiment utilisé la période Ceaușescu, post-Ceaușescu, comme un formidable réservoir d'histoire et a vraiment exploré cette période et ses conséquences. Vous, très vite, vous allez vous intéresser à autre chose et effectivement plonger beaucoup plus loin, beaucoup plus profond dans l'histoire de la Roumanie et ressortir quelque chose de refoulé, de tabou, d'occulté. La persécution des tziganes qui sont réduits à l'état d'esclavage dans Afférim au début du 19e siècle et puis toute une série de films.
Non, il était vraiment des esclaves, ce n'était pas réduit à l'état d'esclavage.
Oui, enfin, c'était des esclaves.
Ah,
c'était des esclaves.
Je ne connais pas très bien français.
Je voulais dire ce que je voulais dire.
Non, mais ça, c'est intéressant parce qu'en Roumanie, il y a deux mots pour esclave. L'un, c'est esclave et l'autre, c'est robe. Et dans les documents, les gitans sont des robes. Et c'est comme ça que les gens disent, mais ils n'étaient pas des esclaves, ils étaient des robes qui est autre chose, mais c'est la même chose.
Oui, parce qu'ils ne sont même pas considérés comme des humains, en fait, ils sont considérés comme des sous-hommes, quoi, donc des animaux. Et donc cette question du génocide, en tout cas de la participation de la Roumanie, de l'armée roumaine, mais aussi du peuple roumain à la persécution et à l'exécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc des documentaires qui sont majoritairement constitué d'archives. Et puis, il y a un film qui est passionnant au cœur de votre œuvre, qui est « Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares », parce que c'est un film qui va un peu dialectiser, en tout cas mettre en scène cette recherche, en tout cas ce questionnement par l'art ou par la représentation de cette responsabilité des Roumains à travers un spectacle de théâtre que l'héroïne du film tente, essaye de mettre en scène sur une place en plein cœur d'une ville. Donc ça pose aussi la question de comment représenter ça et comment, parce que le film se termine par une sorte de grande désillusion, parce que le spectacle, même s'il a lieu, l'effet n'est pas du tout le même effet que recherché par l'artiste. C'est un fiasco parce qu'elle se rend compte que ce spectacle ne sert absolument pas à prendre conscience ou n'a pas d'effet sur ses spectateurs. Et tout de suite après, vous faites Uppercase Print qui va user d'un dispositif beaucoup moins naïf, je dirais, que celui de l'artiste de votre film et qui s'interroge sur la manière justement dont on peut représenter ou mettre en scène un travail de mémoire. Il s'agit pas de faire ce travail, mais il faut le faire d'une certaine manière. C'est aussi ça le rôle et le travail du cinéaste.
Ah oui, d'abord je pense que j'ai réalisé ça, mon premier film sur, qui a comme thème le passé roumain. Et ça, c'est une chose que je dois préciser parce que c'est. Bon, on dit il y a des films sur l'histoire, des films sur l'histoire. Moi, je ne suis pas particulièrement intéressé par l'histoire. Il y a des gens qui sont intéressés par l'histoire et étudient l'histoire, beaucoup de choses. Je suis intéressé par cette histoire cachée. Qui nous était caché à mon génération ou même et par les conséquences, par les liaisons qui existent entre présent et cette passé. Mais j'ai découvert avec cette première film qui était Aferim que si on doit représenter l'histoire, si on veut faire ça, on découvre un grand problème qui est le problème de la représentation, qui bon, existe partout dans tout le cinéma, mais qui est un peu plus résolvable si on fait un film sur le présent, si on fait, c'est quelqu'un qui nous filme maintenant, c'est un peu plus clair la situation. Il y a trois mecs ici, un peu ennuyeux, mais on fait un petit film avec ça. C'est clair, c'est un enregistrement. Mais si on met maintenant des costumes, et on doit prétendre que nous sommes, que je suis, je ne sais pas, Jean Epstein, Carlock, Rossellini, et que Monsieur Père, c'est, je ne sais pas, un autre père, Père Bernanos, ça deviendrait tout à fait problématique, parce que et ça apparaît beaucoup des autres problèmes, beaucoup des choses qu'on doit résoudre. Comment on s'habite, comment on parle, qui sommes-nous, c'est un peu. Et j'ai découvert ça que si on veut parler vraiment, on fait des films sur l'histoire, on doit résoudre ce problème, le problème de représentation. Comment représenter les choses, comment les représenter avec cinéma. Et c'est vrai que le premier film que vous avez mentionné, Les Barbares, c'est un peu un film sur l'impossibilité, pas seulement de représenter, mais sur la, comment je dois dire, sur la le fait que l'art politique c'est tout le temps voué à échouer, moins ou plus. Mais c'est pour ça. Ce n'est pas une question pessimiste parce que le film est fait, donc je crois que c'est important de faire ce film, mais je suis un peu ennuyé par quand il y a des gens qui font des films soi-disant politiques ou d'art politique, de théâtre, des choses comme ça, ils sont trop optimistes, à mon avis. Ils disent, mais je vais faire une pièce de théâtre pour lutter contre le racisme, pour le patriarcat et tout ça. Et je voulais faire un pas en arrière et de dire, mais on doit être plus lucide et de voir qu'un film ne peut pas changer les choses, bien sûr, et commencer d'ici. Et ça, c'est. Et l'autre film que vous dites, qui s'appelle en anglais Uppercase Sprint, c'est un film, oui, plus simple, plus naïf, parce qu'il utilise un peu un montage comme un. Inspiré par le montage d'Eisenstein, et c'est une idée très simple de faire la rencontre entre deux sets d'images, deux types d'images. Et c'est un film plus modeste, si on peut dire ça, mais que je le trouvais aussi important et qui m'a aidé beaucoup dans les quelques attaques que j'ai eues dans la presse roumaine, parce que les gens disaient, mais pourquoi ce mec, peut-être juif, c'est le sage juif, fait-il le film seulement sur le passé fasciste? Pourquoi il n'a pas fait un film sur le communisme? C'est ça que j'entends tout le temps. Et j'ai dit, mais j'ai fait un film sur le communisme, ce film, mais personne ne répondait, oui, vous avez raison. Même des intellectuels, c'était un intellectuel qui j'avais très connu d'abord, D'ailleurs, il était aussi le vice-président de l'Institut culturel roumain et il m'a attaqué. Il disait, mais bien sûr qu'il a eu, c'était il y a un an, qu'il a eu un prix à Berlin pour mon film Aferim ou à Locarno, parce qu'il fait des films sur cette situation, parce qu'ils sont tous des maoïstes, des communistes là-bas. Pourquoi il n'a pas fait un film sur le communisme? Et j'ai répondu, mais j'ai fait un film sur le communisme. Et il a été aussi à Berlin, dans la section forum. Mais il n'a jamais répondu, il a réécrit un article en disant la même chose.
Mais dans cette question de comment représenter le passé, il y a une autre ligne, et Upper Case Print peut-être il en fait partie, c'est-à-dire l'idée que quand même le passé nous laisse des traces. Et souvent, tes films partent, démarrent avec ces traces-là, les archives des Ferrel. Donc je voulais un peu savoir, parce que c'est quelque chose qui arrive à un certain moment dans ton parcours, et je pense que c'est quelque chose sur lequel tu es encore en train de travailler. Ce film qu'on vient de voir inclut ces traces dans cette formule de l'ABCDR. Donc je voulais un peu te demander quelque chose par rapport à l'archive, mais pas seulement l'archive visuelle, mais dans ce sens...
L'archive sonore aussi, parce que les témoignages, les écrits jouent un rôle important aussi.
Oui, mais ça a commencé avec une intuition, effectivement. Quand j'ai fait Aferim, d'abord c'est un intérêt que quelqu'un qui est cinéphile, qui est intéressé par le cinéma, par l'image, par le texte. J'aime beaucoup les livres aussi, et déjà un peu intéressé par les archives à cause de ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'était que quand j'ai fait le film Aferim, j'ai utilisé dans les dialogues seulement des choses qui viennent des documents de littérature du 19e siècle. Donc tous les dialogues dans le film, ils sont des choses prises déjà dans... c'est un montage littéraire, si on peut dire ça. Et après, ou dans le même temps, j'ai découvert que c'est une grande tradition, non, en pensée. L'histoire commençant de documents, commençant des archives, qui commence, je ne sais pas, avec Walter Benjamin, qui jusqu'à aujourd'hui, à Georges Didier Huberman, je ne sais pas, et qui a aussi une grande tradition en cinéma, un peu la tradition de montage qui n'est pas vraiment utilisée comme il faudrait, je pense. C'est un peu... Le cinéma de montage n'est pas le cinéma le plus développé, le plus populaire,
plus répandu.
Oui, reconnu. Mais il y a, ça commence un peu avec les cinéastes russes, ça c'est après, c'est bien sûr Godard, c'est bien sûr Makaveyev. Et c'est vrai que c'est une idée que je le trouve très important, ce n'est pas mon idée, c'est pour ça que je peux dire ça, c'est l'idée de construire l'histoire, ou construire des histoires, construire des films, en utilisant les traces que l'histoire vraie nous a laissées. Oui, c'est beaucoup, et ils n'ont pas vraiment utilisé en Roumanie. On trouve des choses tout le temps intéressantes. Moi-même, c'est une chose que je suis très fier, quand j'ai fait le film avec les... Peu m'importe si l'histoire nous se souvient comme des barbares, j'ai regardé dans l'archive de procès de Maréchal Antonescu, qui était la version de Hitler en Roumanie, l'allié de Hitler, parce que le film parle de la massacre d'Odessa faite par l'armée roumaine dans 1941. Et c'est bien sûr beaucoup de négationnisme contre ça. Et j'ai trouvé dans le procès d'Antonescu et de ses acolytes une chose étonnante que le procureur dit à quelqu'un qui était impliqué. C'était quand le massacre? Et l'autre mec répond, le massacre a été 23 octobre 1941. Et ça, c'est pour moi, je le regardais deux fois et j'ai aussi le posé dans le film et fait le personnage que je regarde deux fois exactement comme je l'ai rencontré. Parce que c'est bien sûr qu'il n'avait pas... Pourquoi cette mec dirait « Mais quel massacre, vous parlez-vous, s'il n'existait pas ?» Le mec répond immédiatement, dans une seconde. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut trouver dans les archives, et même les historiens ne l'ont pas utilisé, les historiens qui écrivent des livres ou des articles sur l'histoire, parce que, bien sûr, c'est un grand manque d'intérêt parmi la plus des historiens qui n'aiment pas les images. Parfois, dans un livre d'histoire, tu trouves un ou deux illustrations comme ça, sans aucun intérêt. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que, bon,
ce que je trouve passionnant dans votre cinéma, c'est aussi ce rapport dialectique entre le dehors et le dedans, des espaces fermés, et en même temps une ouverture sur le monde, la sphère privée et la sphère publique qui se contaminent et qui se mélangent. Papa revient dimanche, ça se passe presque entièrement dans un appartement, mais il y a vraiment toute la vie et toute la vie, la société roumaine, Bucarest, qui passe par le son, par le bruit de la ville, qui est toujours très important dans vos films contemporains ou dans La fille la plus heureuse du monde, qui est un huis clos mais à ciel ouvert, en plein milieu de la ville. Et on retrouve ça aussi dans la première partie de Bad Luck Banging, où alors déjà c'est un film sur le viol de la sphère privée, justement sur le viol de l'intimité par les réseaux sociaux, par la société, et c'est vu saisissant de la ville, où la ville est devenue complètement contaminée, parasitée par des signes publicitaires, politiques, commerciaux, alors qui symbolisent totalement cette société néo-capitaliste où il y a beaucoup de signes, où la pornographie est même dans les publicités ou dans tout ce qu'on peut vendre ou proposer comme image. C'est vraiment sur la vulgarité contemporaine.
Oui, je pense que c'est comme ça. J'espère que c'est comme ça, parce que c'était un intérêt. Oui, c'est une idée simple. C'est une idée que si on regarde les choses qui sont à la surface, on peut avoir une intuition de ce qu'il est dedans. Ou caché, ou plus caché. C'est bien sûr une question qui est plus visible dans une société comme la Roumanie, je pense, et plus visible dans une ville comme Bucarest, parce que Bucarest n'est encore pas très compartimentalisé par classe sociale. Dans le même quartier, on peut trouver des gens riches et des gens moins riches et des gens plus pauvres.
Et des maisons en ruine et des maisons modernes, c'est ce qu'on voit
Exactement. C'est un peu très chaotique et mélangé, qui fait la possibilité, je pense, de voir un peu les choses qui sont... Les valeurs, comme on dit, qui sont les valeurs dans la ville, qu'est-ce qu'ils pensent les gens qui habitent dans la ville. Si on fait une balade et on regarde avec attention les choses, on peut trouver peut-être une hypothèse ou quelques hypothèses, pas vraiment en réponse complète. Et c'était ça l'idée, c'est pour ça que je trouve que, parce que parfois les gens disent mais c'est un parti documentaire, et je dis oui, c'est documentaire parce qu'on n'a pas fait les choses là-bas, on a tourné Ciné-Vérité, comme c'est une autre leçon de Nouvelle Vague française, mais aussi la façon d'utiliser la caméra, c'est de montrer, de choisir des choses qu'on montre pour voir les choses que moi, comme auteur de film, ou nous, comme l'équipe de film, on a observé dans cette simple balade, dans cette flânerie.
Oui, ou déambulation. Mais c'est un montage qui donne du sens, quoi. C'est le montage qui apporte le.
Oui,
le
et sens. C'est un montage avec la caméra aussi. Et ça, c'est aussi très critiqué en Roumanie, parce que les gens disent mais pourquoi il n'a pas montré des autres choses. J'ai dit parce que near, close to,
à côté.
À côté, dans un bâtiment en ruine, c'était peut-être un bâtiment plus beau. Mais bon, c'est un choix. Faire un film, ça, on doit choisir. Mais ils ont dit, bah, c'est la propagande qui l'a payé pour montrer ça. La propagande de Berlin.
Exactement, exactement. Et ce film avait été le projet daté avant la pandémie, n'est-ce
oui.
pas? Donc,
oui.
Mais je trouve que les masques, l'emploi du masque ajoute. Je pense là, le choix. Après, tu nous diras. Le choix, c'est aussi pour le mettre au présent, mais ajoute quelque chose à l'hystérie. Et bien sûr, il y a aussi d'un point de vue de la mise en scène, il y a un double masque. La première scène, la protagoniste porte un différent genre de masque qui cache les yeux, et le reste du film, les masques cachent le visage. Donc, je voulais un peu te demander cela parce que je trouve que c'est un des rares films. De toute façon. Parmi les films qu'on a vus, c'est le seul film qu'on a sélectionné d'ailleurs, mais c'est le seul film où on a dit oui, il y a un travail, il part du présent, mais en même temps, il y a un travail de mise en scène aussi.
Oui, non.
Je peux poser une question plus simple, c'est-à-dire c'était un choix présent.
Absolument, c'est un choix, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que oui, le projet c'est plus vieux que la pandémie. On a tourné la scène de sexe juste avant le Berlin de l'année passée. Et c'était une très bonne intuition parce que je ne me souviens pas, c'était une question pratique de le tourner, de voir si on a, parce que je n'ai jamais fait des scènes comme ça. C'était le début pour moi. Et je travaillais avec un acteur porno. Donc je disais à ma productrice, Ada Solomon, on doit le tourner le plus tôt que possible pour voir si on réussit à faire quelque chose. Bon, on a fait la scène. Et après, on était à Festival de Berlin avec les deux films qui étaient là-bas l'année passée à Forum. Et après, quand on se retournait, la pandémie est commencée. Et on avait de décider qu'est-ce qu'on fait. On fait le film après ou on fait l'année cette année
ou l'année suivante ou l'année
prochaine. L'année suivante et on a décidé de le faire même si on n'a pas beaucoup d'argent. Et on l'a fait pour des raisons de contemporanéité, mais aussi pour des raisons de santé, de protéger les comédiens. Je me suis dit, mais bon, c'est plus important de protéger les comédiens que de faire un film, bon, parce qu'il y avait des producteurs qui disaient, mais non, c'est pas bien comme ça. Et la deuxième chose, c'était que je trouvais ça plus absurde, un peu plus surréaliste, avoir ces gens, même vous, maintenant, quand on vous regarde, c'est un peu... On s'est habitué, mais l'année passée, ce n'était pas assez habitué de le voir. Et aussi, c'est un travail un peu anthropologique parce que j'ai trouvé les masques dans le marché.
Oui, il y a des masques qui sont vraiment stupides, mais qui sont réels. Mais qui sont réels.
Oui, ils sont tous réels. L'une dit, ce n'est pas traduit, c'est pour ça que je dis, avec nous, c'est Dieu. Dieu est avec nous. C'est fait par un monastère. Mais ça, c'était seulement le début de ce message sur la masque. Maintenant, c'est plus, on peut avoir plus de choix maintenant. Et c'est bien sûr, ça devient un symbole aussi.
C'est un film qu'il faut voir uniquement masqué, c'est ça? Enfin, pour l'instant, c'est ce qui se passe.
Non, au contraire, mais... Mais bon, ça, on peut spéculer à l'infini parce que non, c'est Freud qui parle de la relation entre bouche et sexe, et la bouche qui est couverte, je ne sais pas, le sexe qui est ouvert. On peut spéculer. Mais je vois que les gens partent.
Non, mais peut-être qu'il y a des, avant que tout le monde soit parti, il y a peut-être sans doute même des questions dans la salle. Je crois.
Le premier rang. Oh, peut-être.
Oui, et on va vous donner un micro. Il y a un micro qui va arriver. Oui, au premier rang.
Ça a l'air un peu agressif, madame, là-bas.
Il faut être.
Dans le premier rang, ici.
Je suis très agressive, monsieur. Alors, moi, bonjour. J'ai adoré votre film. Je trouve que c'est un film d'une tenue extraordinaire. Chaque image dit quelque chose. Enfin, moi, je l'ai reçu comme ça. J'ai trouvé que la dernière scène, enfin la partie dont vous avez parlé, la dernière partie, c'est la partie la plus roumaine. Et les deux autres, c'est vraiment des parties très européennes. Donc, je suis une inconditionnelle de votre film. Et pourtant, je suis sortie de ce film très mal à l'aise. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi ?
Oh bon, il y a tant de raisons possibles.
Il y a plusieurs motifs, oui, d'être mal à l'aise.
Alors, je vais vous le dire, hein, puisque ça y est, j'ai fait mon petit teasing. Cette dernière scène dont vous avez parlé, je ne sais pas très bien expliquer. Simplement, si je vous dis culture du viol, si je vous dis des adultes consentants, et là, tout à coup, il n'y a plus de tenue. Je comprends, vous étiez en colère. Donc, vous vous êtes dit, allez, une bonne branlée à tous ces gens. D'accord, OK. Sauf que c'est dommage, parce que cette dernière scène, elle est dans l'air du temps. Et,
oui,
et,
mais ce n'est pas la dernière scène. La dernière scène, c'est trois fins. Vous pouvez choisir les deux autres.
Oui, mais moi, je regarde un film dans son entier, monsieur. Enfin,
oui,
et
oui
ouais.
Mais c'est trois fins, et spécialement posées parce que les gens peuvent choisir. Vous pouvez choisir le premier. Enfin, donc, le troisième, c'est pour les hommes. Je ne sais pas.
Excusez-moi. Hein, regardez, on est plein quand même.
C'est une blague.
Vous faites une scène pour les hommes.
Non, c'était une blague, bien sûr.
D'accord. OK. Voilà, je crois que
non,
tout le monde a compris.
Je peux comprendre, mais je pense que la scène est faite un peu assez non réaliste. Et assez, c'est comme un cartoon, comme un dessin animé, je pense. Donc, mais la deuxième fois, le remake, je le ferai sans ça, je vous promets. Elle va demander le consentement.
Oui, mais moi, je trouve que le film veut provoquer. Et cette scène, cette fin, je la trouve juste, parce qu'elle provoque, elle va dans la direction où le film nous a mené. C'est un film qui nous montre une société qui est fortement figée dans des rôles. Et je pense, on comprend, là, dans la troisième partie, dès le départ, qu'on est au-delà du réel. Il y a des caricatures de personnages. Et donc, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais en même temps, je trouve qu'il va dans la direction où le film est en train de nous amener, y compris le fait qu'on soit en rage. Je pense que parfois, la rage est un bon sentiment, et elle nous aide à voir mieux.
Il y a une autre question plus haut. Oui, d'abord, le monsieur.
Bonjour. Donc, je vous avoue que je vous découvre grâce au Festival de La Rochelle. Donc, merci le Covid, puisque a priori ça passe par l'Allemagne. Pour moi, vous êtes un cinéaste engagé, voire subversif. Lorsque on voit que la Russie, la Turquie, la Pologne, la Hongrie réécrivent leur histoire, comment vous êtes perçu, vous, en Roumanie ? Bon, vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce que vous trouvez facilement du financement, de la distribution, de la diffusion ? Enfin, ou est-ce que vous êtes sans arrêt, vous êtes en but, je dirais, à l'inertie du système, à des attaques qui ont une dimension politique, au sens noble hein, du terme, mais pour vous faire taire ? Et j'ai une deuxième question très particulière, parce que hier, j'ai vu Cœur cicatrisé. Et là, je me suis dit, mais comment vous êtes accroché à Max Bleicher, là ? Parce que j'ai trouvé que ce film, on était un peu ailleurs de tous les autres que j'avais vus, quoi, les courts-métrages. Et, bah, voilà, j'ai deux questions, quoi.
Bon, la première, c'est que, heureusement, la Roumanie, c'est vraiment encore un pays assez démocratique. Si on la compare maintenant avec des pays qui étaient notre modèle jusqu'à quelques années en avant, Pologne, Hongrie, c'était tout le temps, et pour beaucoup de raisons, ils ont des modèles pour un pays comme Roumanie, parce qu'on est tous dans l'est de l'Europe, et parfois Pologne, parfois Hongrie fait les choses au niveau de l'économie ou de la civilisation mieux que nous. Mais c'est vrai que dans les dernières années, Roumanie, c'est plus mieux qu'au niveau de rights, droits
de
l'homme.
D'expression et la liberté d'expression.
Liberté d'expression, c'est plus mauvais qu'en Roumanie. Donc, j'ai pas eu de grands problèmes jusqu'à maintenant pour financer les films. C'est vrai aussi que le Centre national de films roumains qui a financé marche pas très bien, mais c'est un peu indépendant politiquement. Et après, bien sûr, quand les films sortent, il y a beaucoup d'attaques dans la presse de droite, d'extrême droite, ou parfois dans les politiques, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais bon, c'est normal, je pense. On s'est habitué avec ça, moi en plus. Et je pense. C'est la réponse que je donne parfois. C'est quelqu'un qui disait très en colère, pourquoi faire un film comme exactement Cœur cicatrisé sur, qui montre un peu, c'est une histoire personnelle, mais c'est aussi l'histoire du pays de la Roumanie au début de dictature fasciste, à la fin des années 30. Pourquoi faire des films sur cette histoire qui sont déjà oubliées et n'intéresse pas personne? Et j'ai dit, mais votre colère, votre violence, c'est en réponse, je pense que mes films sont importants parce qu'ils provoquent des réactions assez fortes. Sans ces réactions, je ne les faisais pas peut-être. Je ne sais pas. Et la deuxième, c'était comment j'ai trouvé Max Blecher. Oui, il est un écrivain qui était un peu oublié après les années 30, un écrivain roumain juif des années 30 qui a été mort très jeune à cause d'une tuberculose de l'os, de la colonne vertébrale. Mais après la Révolution, il a été republié. Et je l'ai découvert quand j'étais adolescent, donc en lisant ce livre. Et après 20 ans, j'ai fait ce film.
Il y avait peut-être une question aussi de ce côté, si je me... Oui. Là.
Oui, c'était aussi à propos de Cœur cicatrisé, mais bon, là, vous m'avez un petit peu éclairé, disons. Mais sur le moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers ce film? Parce que moi, j'y ai vu essentiellement la déroute des services de santé roumains. C'était en 1937, je crois que ça se passe.
Oui, hein, il me semble. La plupart, 37 et 38.
Oui, voilà. Et puis, bon, c'est tout ce que j'y ai vu. Enfin, bon. Et puis, si, il y a une certaine liberté des femmes dans leur sexualité. Bon, mais je ne sais pas...
Si c'était autre chose... Bon, moi, je ne peux pas... Je ne suis pas dans la position de vous dire ce que vous devez voir dans le film, parce que si vous avez voulu ça, ça c'est très bien, et ça c'est peut-être tout ce qui méritait vous. Moi, l'intention, c'était pas de faire un film sur les services de santé, que c'est pas un thème, c'est un thème contemporain important, mais bon, historiquement, c'était pas touché dans ce film. C'est un film sur la maladie personnelle de quelqu'un et oui. L'impossibilité de l'échapper. Oui, c'est un peu un film sur les années 30 et la morale des années 30 et un peu cette philosophie un peu existentialiste qui était à la mode aussi en Roumanie parmi les milieux artistiques et intellectuels. Et aussi, c'était sur l'apparition de grands mouvements fascistes en Roumanie qui étaient au début là-bas. Donc, c'est ce croisement des thèmes qui était exploré dans le film. Mais bon,
c'est un film qui se passe dans un monde très, très fermé, justement, avec un homme qui est paralysé, qui est mobilisé, qui est hors du monde. Oui. Et malgré tout ça, comme je disais, on entend le murmure de l'histoire, des choses qui réussissent à passer à travers les murs de cet hôpital. Donc, c'est effectivement un destin individuel et aussi un tableau de l'époque.
Voilà. Ah, je dis avec Merci. Une grande admiration pour pouvoir faire ça.
Et monsieur. Oui, la question, c'était par rapport à votre parcours. Je me souviens, en 1993, un film franco-roumain qui était formidable, qui s'appelait Trahir, de Radu Mihăleanu. Et à l'époque, vous avez dit qu'au début des années 90, vous étiez cinéphile. Et comment, de cinéphile, vous êtes passé cinéaste?
Ah oui, le film de Radu Mihăilanu, je ne l'ai pas vu que 10 ans après. C'est, oui. Vous voyez, ce n'est pas une tradition de cinéma en Roumanie, vraiment. C'est pas, malheureusement, ce n'est pas une tradition comme en France, d'abord, comme en Italie aussi, qui est, il n'y a pas de philosophe qui écrit sur le cinéma. Et ça n'existe pas en Gilles Deleuze roumain, malheureusement. Mais quand j'étais au lycée, j'étais intéressé par, parce qu'on a eu cette chance, j'ai eu la chance d'habiter à Bucarest d'abord, qui était un privilège là-bas, et j'avais des collègues, j'étais au lycée d'informatique, de calculateurs, de computers, d'ordinateurs, donc j'étais préparé pour devenir ingénieur d'ordinateur, c'est ça ce que presque mes collègues ont fait, bon, des autres choses aussi, médecine, des choses comme ça. Mais j'avais un collègue qui est devenu mon ami, qui est maintenant spécialiste en chinois classique à Heidelberg, en Allemagne, Nicolae Statu, et qui m'a dit, tu vois, ils ont réouvert la cinémathèque roumaine. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'est, une cinémathèque. Et je dois faire ici un peu l'éloge de cette cinémathèque roumaine qui était très pauvre, avec beaucoup de copies noires et blanches, des films couleurs. Donc pour moi, Taxi Driver et Clockwork Orange, ils sont des grands films noirs et blancs encore. Mais la programmation de cette cinémathèque où j'ai devenu un obsédé, c'était très bon parce que c'était pas Henri Langlois qui faisait le programme, bien sûr, mais c'était des gens qui avaient la même façon de penser. Donc on pouvait voir un film comme Nanook, et après un film comme Taxi Driver, et après un film d'horreur comme The Oblong Box, et après, je ne sais pas, un film de Lubitsch, le deuxième jour, un film de Griffith, une rétrospective Buñuel. Donc c'est comme ça. Et moi, je pense que je suis la seule génération qui était comme ça, parce que en commençant avec les années 2000, l'Internet est devenu la principale, et la télévision déjà existait, était devenue les principales sources, je pense, de cinéphilie ou d'intérêt en cinéma. Mais moi, je me suis formé exactement comme, bon, proportion gardée, exactement comme les cinéastes de la Nouvelle Vague en entrant dans le musée du cinéma, qui était, comme je dis, je me souviens, à bout de souffle, quand je l'ai vu, c'était froid dans la salle, il n'était pas de chaleur, et sur la marge de l'écran, c'était des rats qui marchaient. Si ce n'était pas beaucoup de monde pour qu'il ait de la peur.
C'était des rats de cinémathèque.
Oui, c'était des rats de cinémathèque, oui, qui marchaient sur le visage de Belmondo. Donc, c'est comme ça. Et après, je suis devenu intéressé et j'ai essayé à l'École nationale de film. J'ai été rejeté 3 fois, mais c'est trop long à raconter, mais c'est quelque chose d'intéressant aussi.
Vous avez été un peu assistant, non?
Et après, j'ai entré dans une petite école de cinéma et j'ai commencé à travailler comme assistant réalisateur parce que c'était beaucoup de demandes pour des gens qui travaillent pour les studios roumains qui tournaient ou se tournaient des films étrangers. Et j'ai eu la chance de travailler comme troisième assistant réalisateur pour le film de Costa Gavras, Amen, qui était tourné en Roumanie, dans la plupart en Roumanie, 3 mois. Et après, j'ai continué pour 3-4 ans de travailler comme assistant réalisateur pour des films, pour des pubs, des films roumains aussi, des toutes choses. Ça c'était mon école, effectivement.
Une autre question, peut-être la dernière.
Bonjour. Alors, si c'est la dernière, bonjour. Je voudrais revenir à la vidéo de sexualité, en fait, qui est dans votre film. Vous avez parlé qu'il y a des choses qu'il faut voir 2 fois. Et il se trouve que cette vidéo, vous la montrez 2 fois. Et ben, moi, j'y vois un grand choix de cinéaste de le faire. Vous la montrez une fois, on la vit, on est comme avec eux. Et puis la deuxième fois, elle est montrée face à nous. On est pris, on est dans le public, dans cette mascarade et dans position d'être en jugement moral de cette vidéo. C'est bien qu'on la voit deux fois et je trouve ça bien qu'elle ne soit pas évitée, cette vidéo, puisqu'elle est centrale. Et puis, je trouve aussi très important dans la construction de la dernière séquence, enfin de la dernière partie, c'est que cette vidéo, le personnage qui l'a vécu, est obligé d'être face à des gens qui la regardent. Et là, moi, je vois quelque chose de très violent, au double sens. Et ce que je trouve formidable dans ce que vous faites, c'est que moi, j'ai envie de vous dire trois fois merci. Merci comme spectatrice, merci comme femme, parce que vous mettez des femmes qui vont faire face et qui vont répondre. Vous êtes tous sauf un puritain, et merci pour ça. Et je vous dis aussi merci comme cinéaste, parce que je suis cinéaste, et que voir un film aussi libre, ça me renvoie de la liberté et du courage comme cinéaste. Donc voilà, merci beaucoup.
Bon, je vous remercie. Oui, moi je suis très ému de vous entendre. Je pense que vous avez exagéré un peu. Mais oui, je pense que nous, comme cinéastes, on doit faire... C'est un grand, et on peut peut-être finir avec ça, c'est un grand motto que quelqu'un a utilisé, des vers de Fernando Pessoa, qui disait « Quel plaisir... » Je ne sais pas portugais, et je ne connais pas les vers en français, donc c'est une traduction libre. Il disait, Pessoa, « Quel plaisir de ne faire pas ce qu'ils veulent, ce que les autres veulent. » Quel plaisir de faire... Ah, ce plaisir de ne pas faire ce que se cere, c'est en roumain. Donc, quel plaisir de ne pas faire qui se demandait, qui le demandait. C'est ça, c'est vraiment un plaisir.
C'est comme le plaisir aristocratique de déplaire, de Baudelaire.
Ah oui, ça c'est... Voilà, c'est... Demandez à monsieur Père tout ce que vous avez plus intéressant de demander.
Merci à madame pour ce commentaire, parce que ça résume parfaitement ce que fait Radoujou dans ce nouveau film, et puis dans toute sa filmographie, toute son œuvre qui est marquée par la recherche de la vérité, au-delà des recherches historiques, il y a effectivement le besoin de vérité, et puis la liberté formidable qu'il exprime en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, et qui est effectivement un modèle pour nous tous. Merci.
En tant que propagandiste, comme il dit.
Voilà. Merci Radoujoud, merci à vous, merci Carlo. Et merci au festival d'avoir organisé cette rétrospective.